Je voudrais voir avec vous deux passages de l'apôtre Paul dans les épîtres de Corinthiens, où il nous parle de la repentance, en particulier de la première étape, du premier pas, que la Bible appelle la contrition. Je vais lire avec vous dans 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9. De Corinthiens 7, 9 à 11. Je lis au verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produite en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Donc, dans cette deuxième lettre, Paul nous parle d'une affaire qui s'est passée à Corinthe. Il dit d'abord sa joie d'avoir appris par Tite, qui était revenu de Corinthe, que ces chrétiens se sont repentis d'avoir laissé l'un des leurs prendre la femme de son père, sans réagir d'abord, avant que Paul ne leur écrive. Donc cela nous reporte, cette affaire nous est relatée dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 5, où Paul leur avait donc parlé de ce scandale à Corinthe. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement, qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, dans cette seconde lettre que nous avons dans la Bible de Paul aux Corinthiens, Paul est heureux d'apprendre par Tite que ce scandale a été réglé, on ne sait pas de quelle façon, puisque Paul proposait l'exclusion de cet homme qui vivait dans la débauche, pour qu'il se repente s'il est chrétien, ou qu'il reste dans le monde s'il n'est pas réellement converti. Mais Paul dit qu'il a déjà donc jugé ce cas, bien qu'étant lui-même absent. Et dans 1 Corinthiens 5 encore, Paul dit que non seulement cet acte d'inceste est inacceptable, mais pire encore, c'est que l'Église n'avait pas réagi avant que Paul leur écrive. Paul dit donc qu'il a déjà jugé ce cas. Je vous rappelle, parce qu'il est bon de comprendre ce que la Bible nous enseigne sur le jugement dans le Nouveau Testament. Il y a trois passages dans le Nouveau Testament qui nous disent de ne jamais juger un chrétien. Matthieu 7, Romains 14, Jacques 4. Les deux premiers, dans deux de ces passages, il est répété trois fois un frère en la foi, un frère en Christ. Il mène sa vie chrétienne comme il le désire, comme il en est inspiré, et nous n'avons pas à juger un chrétien. Paul dit ailleurs que nous n'avons pas jugé ceux du dehors, donc les païens. Il nous reste donc les faux docteurs et les faux prophètes, les faux frères. Plus de 100 versets dans le Nouveau Testament nous disent que ces religieux incrédules sont sur le chemin de la perdition. Soit ils scandalisent l'Église par le péché, soit ils divisent l'Église par leur fausse doctrine. Jésus lui-même a dit dans Jean qu'il faut juger selon la justice. Et c'est ce que Paul a fait. Bien qu'absent, il a jugé ce péché de Corinthe qui scandalisait, en tout cas qui aurait dû scandaliser l'Église. Donc il est déjà grave qu'un chrétien scandalise une Église ou bien la divise par la fausse doctrine, mais ce qui est pire et malheureux, c'est que l'Église ne réagisse pas. L'adage dit qu'il ne dit rien, consent. Donc le risque, c'est ce que Paul dénonce dans 1 Corinthiens 5, c'est qu'il se passe dans les églises, surtout dans les pays où, chez nous, où des foules remplissent les milliers d'églises d'Abidjan, on ne peut pas les compter, 5-6 000 pour 5 millions d'habitants. Donc là, il est évident qu'il se passe toutes sortes de choses, puisqu'il y a même des églises où on n'enseigne pas du tout la voie du salut, mais uniquement on encourage la cupidité des membres pour qu'ils reçoivent la bénédiction, soi-disant, en échange de l'argent qu'ils donnent. Donc, Tite, revenu de Corinthe, a vraiment réconforté l'apôtre Paul. Il l'a rassuré que les chrétiens ont vraiment réglé cette affaire, se sont repentis, qu'ils sont passés par une véritable contrition, la tristesse selon Dieu. Il y a donc deux tristesses au verset 10 de 2 Corinthiens 7, que j'ai lu premièrement, au verset 10. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, on n'en se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Le premier pas donc de la vraie repentance, la première étape, c'est la contrition, on dit parfois aussi le remords, mais si le remords est le premier pas, il est totalement insuffisant en lui-même, puisque la tristesse selon le monde consiste à craindre seulement les conséquences au niveau humain. Et c'est le cas de Judas Iscariote, dont on vient de parler, qui n'a jamais accepté l'enseignement de Jésus. On sait que la Bible est claire, il est en enfer, il était un faux apôtre. Non seulement pendant 3 ans et demi, il n'a jamais cru l'enseignement de Jésus, sinon il n'allait pas le renier pour 30 pièces d'argent, mais pire encore, c'est que les 11 autres apôtres, quand Jésus leur a dit « l'un de vous me trahira », personne ne soupçonnait Judas. Bon, la Pentecôte n'était pas venue, il n'avait pas l'Esprit Saint comme on doit l'avoir en permanence, mais quand même, c'est des cas qui se ressemblent. À Corinthe, un a péché, l'Église ne dit rien. Les 12 apôtres, l'un n'est pas croyant, il ne croit rien de ce que Jésus enseigne, et pourtant les autres ne soupçonnent rien non plus. Judas, sans doute, ne voulait peut-être pas la mort de Jésus, c'est sa cupidité qui l'a conduit à le trahir de la sorte. Il pensait que Jésus, une fois de plus, allait s'en tirer, parce que déjà deux fois auparavant, Jésus, que l'on voulait tuer, avait échappé à ses persécuteurs. Mais malgré tout, son acte montre bien qu'il n'était pas du tout apôtre. Et pour s'être endurci pendant plus de 3 ans, il lui était bien difficile de se repentir réellement. Il n'a pas eu la tristesse selon Dieu, mais la tristesse selon le monde. Il ne pouvait plus retourner parmi les apôtres. Il a craint les conséquences au niveau humain et il s'est donc suicidé. Pour lui, ce n'était plus possible, après la mort de Jésus, de rester à Jérusalem, de rencontrer encore l'un ou l'autre des apôtres. Et donc, la Bible est claire. Matthieu 26, qu'on a lu tout de suite, à l'instant, « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit jamais né. » Jean 6, Jésus leur répondit, « C'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et pourtant l'un de vous est un démon. » Les démons ne vont pas au ciel, hein. Et Jean 17, dans sa prière, Jésus dit à son Père, « J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Donc ça, le cas de Judas Iscariote est typique de la tristesse selon le monde, qui consiste seulement à craindre les hommes et les conséquences de notre péché, le regard des autres, le qu'en dira-t-on ? Une tristesse vaine, car elle n'a pas en elle-même la puissance de transformation que le Saint-Esprit nous donne quand nous nous repentons réellement. Cette tristesse, selon le monde, ne peut pas nous libérer de la puissance du péché. Ça peut être celle du prisonnier, bien sûr, qui regrette son acte quand il a été pris, quand il a été mis dans les chaînes. Il a du remords, mais aussitôt libéré, il va recommencer. Le remords ne l'a pas délivré de la puissance de son péché. Il ne peut toujours pas résister à la tentation et son cœur est inchangé. Et dès que les conséquences, et ça c'est ce que font beaucoup de chrétiens, quand le Saint-Esprit nous convainc, on a peur, on pense aux hommes, et quand on voit qu'on échappe aux conséquences, on persiste et on continue dans le même péché. On n'a pas le dégoût de son péché et on le refait. Donc cette tristesse, selon le monde, est seulement due à la peur de la réaction des hommes. Elle ne pense pas à Dieu qui est le premier offensé. Et c'est pourquoi elle conduit plutôt à l'amertume ou au désespoir, comme Judas qui s'est pendu. Elle ne fait que souligner la faiblesse de l'homme, incapable par lui-même de faire le bien. Tandis que la tristesse selon Dieu, qui conduit à la vraie repentance, les prophètes de l'Ancien Testament appelaient toujours Israël à revenir à Dieu, à se repentir. Le premier message de Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, c'est « Repentez-vous ». Le premier message de Jésus, dans le chapitre suivant, Matthieu 4, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Le premier message des chrétiens, le jour de la Pentecôte, Pierre, « Repentez-vous ». Et c'est ainsi que 3000 ont été baptisés. Tout commence par la repentance. Et toute vie chrétienne doit se perpétuer dans ce même esprit de tristesse selon Dieu quand le Saint-Esprit nous révèle un péché. Donc ici, Paul nous dit dans cette lettre que cette tristesse nous est donnée par le Saint-Esprit. Et l'exemple, c'est donc David. Le roi David qui a connu cette tristesse quand Nathan lui a parlé, révélé son péché avec Bathsheba et Uri. Et nous voyons comment, dans le psaume 51, David, bien qu'il ait commis l'adultère avec Bathsheba, qu'il ait sacrifié et tué Uri, son mari qui était un innocent et un très bon officier de l'armée d'Israël, il se permet de dire au psaume 51, « J'ai péché contre toi seul ». Tellement David est conscient qu'il a bafoué la sainteté de Dieu, qu'il a offensé Dieu. On dit en Afrique « gâter le nom de Dieu », que David ne pense qu'à Dieu quand il lui parle de sa chute. Dieu réellement est le premier offensé. Et dans la parabole du fils dépensier aussi, de Luc 15, nous voyons le même comportement. Après tout un temps d'épreuve, quand le fils veut revenir à son père, il lui dit d'abord « J'ai péché contre le ciel, Dieu, puis contre toi ». Ça, c'est la vraie tristesse que le Saint-Esprit nous montre et que nous devons expérimenter quand nous sommes conscients d'un péché quelconque. Cela n'exclut pas qu'on doive aussi, bien sûr, suivre les autres étapes, confesser aux frères, à l'église si c'est nécessaire, abandonner, se détourner du péché, et la dernière, réparer. La réparation nous délivre réellement. Si nous avons réparé un péché, on n'est pas prêt de le reproduire parce qu'on sait d'avance qu'il faudra encore le réparer. Donc Paul nous dit que cette tristesse selon Dieu, on ne s'en repent jamais, on ne la regrette pas, au verset 10. Parce qu'elle produit un changement de cœur qui conduit vraiment au dégoût du péché. On commence à voir le péché comme Dieu le voit lui-même, dans sa perfection et dans sa sainteté absolue. Celui qui a une tristesse selon Dieu, on peut dire qu'il se met du côté de Dieu contre lui-même, contre son péché. Et ça, ça lui donne la puissance d'en être libéré. On voit mieux notre péché comme Dieu lui-même le voit. Donc elle permet au pécheur de se détourner réellement de son péché et elle conduit donc au brisement du cœur. On a rencontré des chrétiens qui ne voulaient pas qu'on entende parler de cela, mais la Bible en parle. Elle parle bien du brisement du cœur, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et la Bible nous dit bien que le Saint-Esprit produit aussi un brisement quand nous prenons conscience de notre situation comparée à la sainteté de Dieu. Le psaume 34. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. On sait comment David a jeûné après que le prophète Nathan lui ait parlé. Celui qui est conscient de son péché, il perd l'appétit. Hein. Si c'est un péché grave, il va jeûner de lui-même. On n'a pas besoin de lui dire. Il en perdra l'appétit même. Psaume 51. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit. Et le dernier chapitre d'Ésaïe, 66, Dieu dit par Ésaïe, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu. » En conclusion donc, Dieu promet la bénédiction à ceux qui se repentent, celui qui est triste selon Dieu, parce que cette tristesse du monde, qui est souvent encore la nôtre, n'est que celle de la crainte de nos conséquences, de nos péchés ici-bas, sur terre maintenant. C'est le cas donc de ceux qui attrapent des maladies parce qu'ils sont fumeurs, buveurs, drogués, ou bien la prison pour le voleur, le meurtrier, ou bien la mauvaise réputation pour celui qui pratique l'impudicité, ça, les conséquences, on les connaît, on les craint aussi. Mais celui à qui on doit penser en premier lieu, c'est Dieu que nous avons offensé. Donc nous-mêmes, pour terminer, quand le Saint-Esprit nous révèle un manquement, un péché quelconque, nous devons savoir de quelle tristesse nous sommes animés. Si c'est la tristesse dont l'apôtre Paul parle, celle selon Dieu, que nous ne considérons que Dieu que nous avons offensé et dont nous avons bafoué sa sainteté, nous serons délivrés de ce péché par la puissance de Dieu et de son Esprit Saint. Mais n'ayons pas une tristesse selon le monde en regardant aux hommes, en se comparant aux autres et en pensant seulement aux conséquences que notre péché peut avoir maintenant ici sur terre. Et ainsi, Dieu nous en délivrera, nous permettra aussi de franchir les autres étapes de la repentance, la confession et la réparation, qui nous délivrent définitivement de ces péchés que le Saint-Esprit nous révèle. Et ainsi, la bénédiction sera sur nous, nos familles et notre Église. Pour la seule gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen.
Merci Olivier pour ce temps de prédication, pour ce rappel de l'importance de la repentance dans notre vie chrétienne. Merci aussi à Ruth. Et pour ce temps, pour nous, nous avons pu apprendre à vous connaître un peu mieux. C'était une joie pour nous. On va maintenant, et dans la continuité de notre temps de louange de ce culte, procéder au recueil de l'offrande. Je vais inviter les musiciens à reprendre place.